Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez déjà commencé à goûter à cette joie divine qu'est la présence du Seigneur ce matin? C'est bien. Merci Didier. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Et si vous ne l'avez pas eu, la bonne semaine, eh bien c'est le moment d'en profiter, car je crois que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous ici. C'est bien le but et c'est bien ce qui fait ma joie le dimanche matin. Non seulement de vous retrouver, de se rencontrer, mais aussi parce que je sais que le dimanche matin, nous allons rentrer dans la présence du Seigneur qui va être là. Vous le croyez qu'il est là ? Il est là ce matin, il est présent. Et il veut nous encourager, à chacun d'entre nous. Quelle que soit ta situation, il est là. Voilà pourquoi le dimanche matin, je me réjouis. Je me réjouis de vous revoir. Et j'espère que vous vous réjouissez de me voir aussi. N'est-ce pas? Si ce n'est pas ça, mais tant pis. Il faudra me supporter une fois de plus. Mais voilà, le dimanche matin, compte tenu de tout ce que nous avons vécu durant une semaine, du lundi au samedi, avec ses joies, avec ses peines, avec ses difficultés, avec notre quotidien, la vie de tous les jours, il est bon de venir le dimanche matin, se restaurer dans la présence du Seigneur pour être de nouveau fin prêt, gonflé pour commencer une nouvelle semaine. Même si chaque matin est un éternel recommencement et que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour nous, il est bon le dimanche matin de venir regonfler nos batteries, regonfler, nous encourager mutuellement, mais nous encourager aussi par le Saint-Esprit, par la présence du Seigneur, pour pouvoir lutter, tenir, combattre durant toute la semaine à venir face à nos situations. Parce que nous avons tous, bien sûr, des situations. Ce dont je vais parler ce matin, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. En cours de route, le Seigneur a redirigé comme les trains. J'avais prévu un sujet qui était un bon sujet, il me semble-t-il. Mais voilà que dans la semaine, j'étais sous la douche. Je ne sais pas si vous vous chantez sous la douche. Moi, je chante. Mais cette fois-là, je ne chantais pas. Mon esprit était en prière. Et mon esprit a été interpellé par un sujet. J'ai dit, j'en ai déjà un sujet, Seigneur, c'est pour une autre fois. On verra. Il est bien, mais pour une autre fois. Et puis, je suis monté, comme tous les matins, me mettre dans la présence du Seigneur. Il est important pour moi, tous les matins, de ne pas manquer à ce rendez-vous divin que j'ai avec le Seigneur. Et croyez-moi, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à le faire. Parce que ce sont des moments qui n'ont pas de prix. C'est quelque chose d'exceptionnel que de prendre un moment le matin dans sa présence et de le laisser nous renouveler, de laisser ces sources d'eau vive jaillir dans notre cœur, de renouveler l'esprit qu'il a mis en nous. Très important. Et donc, dans ce moment, eh bien, le sujet revenait tout le temps. Alors j'ai dit, bon, ok Seigneur, je n'insiste pas parce que finalement, au final, ce n'est pas pour faire ma volonté que je suis devant vous, ce n'est pas pour vous dire des choses qui me plaisent, même si elles sont bonnes, ce n'est pas moi qui compte, c'est ce que lui, il veut, c'est ce que le Saint-Esprit veut, et je tiens à être l'instrument que Dieu veut que je sois. Je n'ai aucun mérite si ce n'est d'être ce canal que le Seigneur veut que je sois, rempli de son esprit, pour apporter quelque chose qui correspond à la volonté du Seigneur. Quelque chose dont le Seigneur veut que vous sachiez. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas moi qui compte. C'est pas Serge Perruchot qui compte. C'est le Seigneur. Et c'est lui seul qui doit être vu. Ça, c'est très important. Sachez-le, ce n'est pas l'homme que vous devez regarder, mais c'est le Seigneur. Ce n'est pas la voix de Serge qu'il faut écouter, mais c'est la voix du Seigneur. Très important. Et à ce propos, ce matin, nous étions là, devant notre tasse de café avec Muriel, et comme tous les matins, encore une fois, on a ce petit moment qui nous fait du bien pour parler, pour communiquer tous les deux, mais en même temps, pour se plonger un peu aussi dans la parole de Dieu. Et j'ai été encouragé par un verset, et je souhaite le partager avec vous. Ce verset, il se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 13. Et il nous dit celui-ci, « En lui, très important, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, encore une fois, vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été scellés de quoi ? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est juste un partage. Je ne vais pas commencer à prêcher sur ce sujet, mais je voulais que vous sachiez que en lui, vous tous qui entendez ça, nous avons été scellés. Et quand quelque chose est scellé, il n'y a aucune autorité, si ce n'est une, celui qui a scellé, qui a le droit de déceler. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous anime. C'est le Saint-Esprit qui nous encourage. Voilà. Mais je vais arrêter là, sinon je vais commencer à prêcher encore une fois sur quelque chose qui n'est pas le but. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Père céleste, dans le nom de Jésus, je te rends grâce de ce privilège que tu nous as laissé et que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole et d'être à l'écoute de ta parole. Que ta parole nous éclaire, nous encourage, nous édifie à être le peuple que tu veux que nous soyons. Alors oui, je prie pour ce moment, Seigneur, pour que ce moment soit sous l'onction de ton esprit, que ce moment soit sous l'onction et l'action du Saint-Esprit, afin que nous soyons équipés et encouragés pour ce que tu nous as appelés. Merci Seigneur, et qu'à toi revienne toute gloire, tout mérite dans ce moment. Amen. Nous allons, où je vais vous prêcher à partir de l'évangile de Jean. Mais avant de commencer l'évangile de Jean et le sujet, j'aimerais revoir avec vous les 7 déclarations que Jésus a faites. Vous les connaissez, les 7 déclarations ? Les déclarations du « Je suis ». Il y en a 7. Au chapitre 6, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Au chapitre 8, il dira « Je suis la lumière du monde ». Au chapitre 10, il dira « Non, pas encore. D'abord, il dira « Je suis la porte ». Et plus tard, quelques versets plus bas, il dira, oui, « Je suis le bon berger ». Au chapitre 11, il dira, « Je suis la résurrection et la vie ». Et au chapitre 14, il dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et au chapitre 15 finalement, il dira, je suis le cep, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais au-delà de cela, il rajoutera, au chapitre 8 de Jean, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ceci voulant dire que si vous prenez le premier livre de la Genèse dès le commencement, il n'est pas dit « je », mais il est dit « nous faisons ». Deuxième personne du pluriel. Voilà l'accent sur lequel je voulais mettre avec vous. Et nous allons voir ce que j'appelle, et ce qui sera le titre de ma prédication, nous allons voir le quatrième « je suis ». Quel est le quatrième « je suis » ? Ah ah, ah ah, je suis le bon berger. Jésus, le bon berger. Voilà le quatrième « je suis ». Et donc pour ce faire, eh bien voilà, nous allons ouvrir notre Bible au chapitre 10 et nous allons lire les 18 premiers versets. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte de la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis, qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ce chapitre, je ne sais pas pour vous comment vous le recevez, mais ce chapitre est un chapitre très rassurant. Vous ne pensez pas ? Il est très rassurant. Et pourquoi est-il si rassurant ? Il est rassurant parce qu'il nous parle, déjà, premièrement. Et j'espère que, à vous, il vous parle. Oui, mais il nous parle de quoi ? Ah, c'est très intéressant, ça. De quoi nous parle-t-il ? La chose qui m'a premièrement interpellé, c'est le verset 3. Le verset 3 qui nous dit « Il les appelle par leur nom, les brebis. » Il les appelle par leur nom. C'est une marque de reconnaissance. Sache que ce matin, vous tous, autant que vous êtes, Jésus vous appelle par votre nom. Il vous connaît dans l'intimité. Vous n'êtes pas indifférent devant lui. Il vous appelle par votre nom. Bérol, il t'appelle par ton nom. John, il t'appelle par ton nom. Nathalie, il t'appelle par ton nom. Noémie, il t'appelle par ton nom aussi. C'est une marque d'intérêt que Jésus nous porte. Nous ne sommes pas simplement que des pions devant lui. Mais il dit, ah, je t'appelle par ton nom, parce que tu as du prix à mes yeux. Plus loin, il nous est dit dans la parole de Dieu. Et le verset 16 nous dira, j'ai encore des brebis Et ces brebis-là, elles ne m'appartiennent pas encore. Mais ces brebis-là, j'irai les chercher dans cette bergerie. Parce que celles-ci aussi, il faut que je les amène. Et elles entreront et elles entendront ma voix. Notez encore une fois que Jésus parle d'entendre sa voix. Entendre sa voix. Elles entendent et connaissent la voix du berger. Au verset 4, il dit « Il marche devant elles. » Il marche devant ses brebis. Il ne marche pas derrière, il ne marche pas au milieu. Il marche devant. Pourquoi ? Pour prévenir des dangers. Parce que quand vous regardez, par exemple, un documentaire où il y a un documentaire sur la brousse, il y a toujours un guide et le guide, il est là, il défriche le chemin pour que les gens qui viennent puissent passer au travers. Il détruit les dangers, il fraye un chemin. Jésus marche devant nous. C'est lui qui trace notre voie. C'est lui qui trace notre route, notre chemin. Si nous voulons le suivre et être garantis, et je dis bien être garanti de quoi qu'il arrive en suivant Jésus. Parce que c'est lui, et lui seul, qui nous conduit, qui nous fraye le chemin et qui nous écarte de tout danger. Le plus important dans tout cela, c'est d'entendre sa voix. C'est d'entendre sa voix. Mais pas simplement d'entendre sa voix, de l'écouter aussi. D'être attentif à sa voix. Connais-tu la voix de ce bon berger? La voix V-O-I-X. Blabla. Pas la voix, le chemin. Bien que les deux vont ensemble. Connaître la voix du berger et connaître le chemin sur lequel il veut que l'on soit. C'est d'autant plus important qu'il en va de notre survie. Parce que je l'ai souvent dit, et déjà pour moi-même, ça m'a sauté aux yeux. Aujourd'hui, encore plus que jamais, être chrétien ou être croyant, c'est une question de vie ou de mort. Entre les deux, il n'y a rien. C'est choisi la vie ou choisi la mort. C'est une question de vie ou de mort que d'être croyant. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le diable ne joue pas. Le diable essaiera tout un tas de choses, mais il ne joue pas. Mais Dieu non plus ne joue pas. Et il est celui qui a remporté toutes les victoires pour que nous ayons la vie. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 11, il nous est dit la chose suivante. « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. » Il prendra les agneaux dans ses bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prendra ceux qui sont fragiles. Il prendra ceux qui sont blessés. Il prendra ceux qui sont découragés. Il prendra ceux qui ont besoin de protection. Parce que notre protection est en lui. Jésus est le bon berger. Il est ce berger qui prend soin de nous. Il est celui qui non seulement marche devant nous, mais qui prend soin de nous. Quand nous sommes blessés, quand nous sommes malheureux, quand nous sommes touchés, quand nous ne pouvons plus marcher, il est celui qui nous regarde et qui nous dit « Ne crains pas, mon enfant, car je suis avec toi. » Nous devons être sûrs et avoir cette assurance qu'en lui, nous avons trouvé tout ce dont nous avons besoin pour exister. Pour exister. Parce que tout le reste, malheureusement, n'est que futilité. N'est que futilité. Des joies éphémères, des joies passagères que le monde tente de nous offrir pour nous séduire, pour nous ravir le prix de la course, pour nous empêcher d'arriver au but. Quel est le but ? C'est un jour de rencontrer ce Sauveur qui nous a aimés et qui un jour a été à la croix, a donné sa vie, a été jusqu'au bout de sa mission pour que nous, à notre tour, nous ayons la vie. Le péché qui nous incombait est retombé sur lui, nous dit la parole de Dieu. C'est celui qui a payé le prix. Nous ne méritons rien et nous ne méritions absolument rien si ce n'est que la mort. Mais lui, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de tout ce qui nous condamnait. Il l'a porté sur lui jusqu'à la croix. Et c'est par ses meurtrissures et par ses meurtrissures seulement que nous sommes guéris. Voilà pourquoi il est notre berger. Voilà pourquoi il est ce bon berger. Et qu'à chaque fois, que nous dévions de cette route qui nous a tracée, son cœur saigne. Il ne s'en réjouit pas. Son cœur est malheureux de voir que lui a tant de projets pour chacun d'entre nous. Et que nous, des fois, nous voulons en faire qu'à notre tête. Nous voulons en faire que ce que bon nous semble, alors qu'il serait si simple de suivre et d'accepter ce bon berger et de le suivre sans se poser de questions. C'est ce que Jésus dit d'ailleurs, en disant que celui qui me suive se charge de sa croix et meurt à lui-même. Mourir à soi-même, c'est quoi exactement ? Bien, mourir à soi-même, c'est se renier. C'est ne plus avoir les yeux tournés sur soi-même. C'est ne plus avoir ce propre intérêt, cet orgueil même, on peut dire, qui va nous animer. Mais non. Soyons plutôt comme Paul le dit. Je ne vis plus pour moi. Si je vis, c'est pour Christ. C'est Christ qui vit en moi. Mourir à soi-même, c'est accepter totalement. Et je dis bien totalement, sans concession. Alors oui, je sais, vous allez dire, celui-là, il est dur. C'est un extrémiste. Non, c'est pas un extrémiste. Parce que si c'est extrémiste, alors je suis un extrémiste selon la parole de Dieu. Mais avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Il faut savoir à qui tu appartiens. Il faut savoir qui tu veux suivre. Il faut savoir quel est ton choix. Quel est ton but dans la vie. Est-ce que nous considérons réellement ce que Christ a fait pour nous ? Est-ce que nous considérons réellement le prix qui a été payé, quand nous perdons un de nos membres de famille, nous sommes tristes. Nous sommes très tristes et c'est normal, c'est humain. Nous sommes malheureux, c'est normal, c'est humain. Mais au-delà de cela, il y a Christ. Christ, lui, il est mort pour nous. Et plus que tous les gens que nous aimons, Christ, lui l'a fait. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon cousin, c'est pas mon oncle qui va me sauver. C'est Jésus-Christ qui me sauve par le don de sa vie à la croix, par son sang qui a été versé, son sang qui me purifie de tout péché. Mais attention, ce n'est pas parce que son sang nous purifie de tout péché qu'il faut rentrer dans le péché. Ça fait partie d'un autre thème que je ne commenterai pas maintenant. Mais sachez une chose, c'est que avec Dieu, il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons vivre comme nous l'entendons. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'il faut faire ce qu'il nous plaît. Je dirais même mieux, c'est un affront. C'est un affront que nous faisons à celui qui nous a aimés plus que tout. Je sais, je me rends compte de ce que je dis. Je le vis, je l'éprouve, je l'exprime. On n'est pas forcément à parler et à dire que des choses plaisantes, mais on est appelé aussi à dire la vérité, telle qu'elle est, telle que la parole de Dieu nous l'a annoncée. Jésus, quand il parlait, il n'appelait pas le bien mal et le mal bien. Il disait les choses directement, telles qu'elles étaient. Aujourd'hui, sachons réaliser dans quel monde nous vivons et où nous allons. Ce monde rempli de séduction, ce monde rempli de divertissement, et je n'ai rien contre, attention, mais c'est un lieu de perdition quand même. Selon les choix que l'on va faire, ça ne veut pas dire qu'il faut être triste, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre recroquevillé sur soi-même, bien sûr que non, là n'est pas le but. Parce que Jésus veut que nous soyons joyeux aussi, il veut que nous soyons heureux. Mais il y a différentes façons que d'être heureux, que d'être joyeux. Il y a différentes façons que de s'amuser, que de faire de l'humour, que d'avoir de l'humour. Dieu a de l'humour, pourquoi j'en aurais pas ? Dieu est un Dieu d'humour, il a plein d'humour. Mais pour cela, il faut être sur ce chemin qu'il nous a laissé, sur ce chemin qu'il nous a donné. Vous comprenez ce que je dis ? Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Vous pouvez dire amen, ce n'est pas interdit. Des fois, ça se fait dans certaines réunions, notamment autrefois, les gens, ils étaient tellement contents qu'ils disaient « Amen !» Vous pouvez le dire. Nous sommes dans une église libre, mais pas libre de faire n'importe quoi. Pierre nous disait la chose suivante et nous dit toujours la chose suivante. « Vous étiez des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de votre âme. » Le gardien de notre âme. Mais c'est fort de savoir que je marche, certes, je vais à droite, je vais à gauche, si je me trompe, j'ai le gardien. Celui qui prend soin de moi, celui qui me dit, fais gaffe là, tu te trompes. Tu te trompes de route. Il est le gardien de notre âme. Il est celui qui va mettre dans notre cœur et dans notre esprit quand on se trompe ou quand on prend une mauvaise voie ou quand on va dire des choses qui sont des non-lieux, des non-sens. Il est celui qui nous garde. C'est pour cela que dans le psaume, il est dit « Tu m'entoures par devant et par derrière. » Il nous entoure, il nous... Le Saint-Esprit par lequel nous sommes scellés, nous garde. Et je vais en arriver à ce psaume que tout le monde connaît, même les non-croyants. Et pourtant ce psaume, quand on a lu ce psaume, on a tout compris de la part de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est bien dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il ne me manquera rien, absolument rien. C'est une forte proclamation. C'est quelque chose de puissant. Je ne sais pas vous, quand vous lisez ce genre de verset et ce psaume, s'il ne vous pénètre pas corps, âme et esprit, je serais tenté de dire, pour savoir que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que, peu importe, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est pas l'argent que j'ai besoin. C'est pas d'avoir une belle voiture, c'est pas d'avoir une belle maison. C'est d'avoir l'amitié de l'Éternel. C'est d'être l'ami de Jésus-Christ, parce que lui veut être mon ami. Et il est mon ami. Il est d'autant plus mon ami qu'il connaît mon nom. Je ne manquerai de rien. J'ai connu des situations, et beaucoup de situations, des témoignages que je pourrais vous raconter. Je sais, je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Des situations où je ne savais pas de quoi le lendemain était fait, je ne savais pas ce que j'allais manger, je n'avais pas un sou, pas un sou. Mais ce qui s'appelle pas un sou. Et pourtant, je peux dire avec assurance, je n'ai manqué de rien. Je ne savais pas ce qu'allait se passer le lendemain, mais je n'ai manqué de rien. Il y a eu des interventions miraculeuses et divines qui n'ont pas permis que je manque de quoi que ce soit. Je crois au miracle et je crois surtout à la bonté de Dieu. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la vie d'un berger, mais un berger, quand il conduit ses brebis, il ne va pas mettre ses brebis en péril. Et là, en ce moment, à cette époque, c'est l'époque de la transhumance. C'est-à-dire, c'est l'époque où les bergers amènent leurs brebis sur des hauts sommets, dans des verts pâturages, pour que ces brebis se restaurent, pour que ces brebis aient de la bonne nourriture. Il me conduit vers des verts pâturages. Quand je lui dis, Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure, tel que je suis, je viens à toi. Et si nous venons tel que nous sommes à Jésus et que nous le laissons nous conduire, il nous conduira vers des verts pâturages. Il nous donnera l'assurance. Il nous donnera l'assurance parce que c'est ses promesses. Parce qu'il est dit dans Hébreux, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et encore, il est dit, chaque instant de chaque jour, je suis avec toi. Je suis chaque jour avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que nous le rencontrions, il est avec nous. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il me dirige vers des eaux paisibles, ça veut dire, littéralement, quand ça a été traduit, c'est pas ça la vraie traduction. La vraie traduction, c'est vers des eaux de tout repos. La traduction de ce verset, c'est des eaux de tout repos. C'est pas l'océan Atlantique, c'est pas la mer Méditerranée, c'est pas ces grosses vagues, non. Mais des eaux de repos. Parce que c'est dans le calme que nous recevons la paix de Dieu. C'est pas dans l'agitation, c'est pas dans le tumulte, c'est pas dans l'énervement, mais c'est dans des eaux paisibles, dans des eaux de repos que nous rencontrons ce divin berger. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Il me conduit dans les sentiers de sa justice, pourquoi ? À cause de son nom. C'est pas par rapport à moi, c'est à cause de son nom, pour que lui seul soit glorifié. Et à cause de son nom, parce que son nom est au-dessus de tout nom, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, parce que il est le seul à qui le ciel et la terre lui sont soumis, à cause de son nom, je n'ai rien à craindre. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et si même quelqu'un se levait contre moi par quelque chose d'injuste, lui-même me ferait justice. Et je vous dis ça parce que je l'ai expérimenté. Il m'est arrivé une histoire une fois, avant que j'aille en Angleterre, etc. J'avais une trentaine d'années. Où des gens mal intentionnés ont voulu me conduire au tribunal. Ils ont pris un avocat, etc., tout ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'avais rien fait qui me semblait d'anormal. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends un avocat, ils vont être démolis, parce que je sais que je suis dans mon droit. Alors je ne prendrai pas d'avocat. J'irai tout seul au tribunal et je me présenterai au juge, parce que j'en avais le droit. Et eux, ils sont venus avec leurs moyens de défense et leur avocat. La plaidoirie a commencé. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et ensuite, le juge m'a dit, « Et vous, qu'avez-vous quelque chose à dire? Vous n'avez pas d'avocat. » Non, j'ai dit, « J'ai pas d'avocat. » Mais ce que j'ai à dire, c'est simplement que j'ai fait confiance à des gens à qui je ne devais pas faire confiance. Et qu'ils ont usé de malversations. Enfin, j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Mais le Seigneur a mis les paroles dans ma bouche. Ne crains pas, car tout ce que tu auras à dire te sera donné au moment même. Jésus a été ma propre justice. Et au final, sans le vouloir, j'ai eu gain de cause. C'est eux qui se sont retrouvés dans les problèmes. En voulant m'y mettre, alors que moi je n'avais rien demandé. L'Éternel est ma justice. L'Éternel est ma justice. À partir du moment où ce n'est pas une malversation, où ce n'est pas quelque chose de notre faute, nous pouvons compter sur lui. Il est notre justice. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, nous dit la parole de Dieu. Et ce verset que j'aime plus que toute chose, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je vous l'ai dit dimanche dernier, cette vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre. Ce n'est pas la vallée de la mort. Ce n'est que l'ombre. Nous n'avons rien à redouter. Nous n'avons rien à redouter. La conception et le défilé de ce psaume coulent par lui-même. Il est notre justice, il nous conduit vers des eaux paisibles. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Savez ce que c'est de dire? Je ne vous laisserai pas orphelin. Nous sommes assurés. Nous sommes assurés de sa présence dans notre vie. Que l'on le sente ou que l'on ne le sente pas, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, il est toujours là et il s'occupe de nous. Il est celui qui nous conduit. Est-ce que tu connais ce berger-là? Est-ce que tu connais ce berger-là? Il est réellement le bon berger. Pour savoir d'où je viens, et c'est bon de louer Dieu et de se rappeler, comme le dit ce cantique, « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. » Moi, je me souviens d'où le Seigneur m'a retiré. Je me souviens où il a été obligé de me prendre. Il m'a pris dans la boue, il m'a pris tout à fait au fond. J'étais carrément au fond. J'étais un être perdu. J'étais indésirable. Je ne valais plus rien. Et bien des hommes m'auraient mis à la potence s'ils avaient pu. Je ne suis pas un saint, bien que maintenant je le suis devenu. Mais à l'époque, je ne l'étais pas. Mais Jésus, lui, est venu me chercher. Il est venu me chercher dans la misère. Il est venu me chercher dans mes désarrois. Il est venu me chercher là où personne n'aurait voulu venir à ma place. J'étais ce qu'on appelle un oiseau de nuit. La nuit était mon domaine. Et la nuit est très mauvaise conseillère. C'est la nuit qu'on fait les mauvais coups. La nuit appartient aux méchants. Et Jésus est venu me retirer de là. Et quand je l'ai accepté, quand il est venu vers moi et qu'il m'a dit « Donne-moi ton cœur » et que je lui ai donné, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Plus rien n'a été pareil. Tout a été changé. Et même quand je déviais un peu, et j'ai dévié, vous le savez, si vous avez écouté mon témoignage, pendant quelques années, je m'étais écarté. Lui ne m'a jamais abandonné. Dans sa fidélité, il m'a gardé. Il m'a gardé de tout danger. Mais mon cœur, finalement, ne s'était jamais vraiment très éloigné. Certaines circonstances, certainement. Mais lui, il est celui qui veillait sur moi, comme un berger veille sur ses brebis. J'étais pas la brebis galeuse, j'étais la brebis malade. C'est une différence entre la brebis galeuse et la brebis malade. Et dans Jérémie, au chapitre 32 et au verset 40, il nous est dit « Je conclurai, écoutez bien, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent plus de moi. Je conclurai avec eux une alliance. » Cette alliance, c'est en Jésus-Christ. Cette alliance, c'est la nouvelle alliance. C'est celle de Jésus-Christ dans notre vie. C'est celle de Jésus-Christ à la croix. C'est celle de Jésus-Christ dans le rachat. Il a racheté notre âme du pouvoir de Satan. Notre âme n'est plus sous le pouvoir de Satan. Il a changé de propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu, par Jésus-Christ. Et notre âme appartient maintenant à Jésus. Les brebis entendent et connaissent la voix du berger qui dit... Qu'est-ce que dit le berger? Qu'est-ce qu'il dit à ses brebis? Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous qui êtes rompus. Vous qui avez des problèmes. Vous qui pleurez. Vous qui êtes dans la détresse. Vous qui marchez courbés. Vous qui avez des soucis. Venez à moi. Venez à moi car je vous donnerai, moi, je vous donnerai du repos, je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin? La seule chose que nous avons besoin, c'est de savoir qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui nous aime. Au-dessus de tout, above all, au-dessus de tout, nous avons Jésus-Christ, ce berger d'amour qui est au-dessus de tous nos soucis. Viens à moi tel que tu es, viens à moi. Dans l'évangile de Luc, il est dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas notre notoriété, ce n'est pas notre identité qui nous fera rentrer dans le royaume de Dieu. C'est le prix que Jésus-Christ a payé à la croix, c'est le fait de savoir que nous suivons le bon berger, et c'est le fait que nous lui appartenons. Ça, c'est le plus grand trésor que l'être humain peut avoir. Il nous a assuré, non seulement d'une identité, mais de rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus disait que le royaume de Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul et l'unique, le vrai Dieu. Et dans l'Apocalypse, Jean dira, nous savons que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en lui. Nous sommes dans le véritable par lui. Nous marchons dans le véritable. Et Jésus dira, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix de Jésus. Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous a donné sa paix, il nous a donné sa joie. Il nous a donné l'équilibre dont nous avons besoin pour vivre notre quotidien, pour marcher chaque instant de chaque jour avec lui, pas après pas. On ne brûle pas les étapes. Il y a un temps pour tout, dira Dieu. Ne brûlons pas les étapes, mais à chaque jour suffit sa peine. Mais nous sommes assurés qu'il est avec nous, parce qu'il nous a laissé sa paix, parce qu'il nous a laissé sa joie, parce qu'il nous a laissé tout ce qui lui appartenait. Jésus dira, dans sa prière sacerdotale, « Je ne te prie pas pour le monde entier, mais je te prie pour eux. Eux, c'est nous. Je te prie pour eux, pour que tu les gardes. » Encore une fois, nous sommes gardés. Ayons cette assurance qu'en lui, nous sommes gardés. Parce que Jésus plaide pour nous, parce qu'il est notre avocat et qu'il intercède pour nous auprès du Père. Le psaume 95 dira « Il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Le psalmiste disait la chose suivante. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné. C'est dans le psaume 37 et au verset 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Que de promesses. Ce matin, je voudrais inviter chacun d'entre nous ceux qui ont besoin d'être fortifiés, renouvelés, encouragés, avoir un besoin bien précis. Ce matin, je veux t'inviter. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin? Ce n'est pas un mal, ce n'est pas un problème. Devant Dieu, ce n'est pas un problème. Nous allons baisser la tête, fermer les yeux, nous mettre devant la présence de Dieu. Nous allons nous présenter devant le Seigneur. Et ce matin, je t'invite à parler au Seigneur, à vider ton âme, à lui dire ton souci, ton problème, ton poids, ton besoin, d'être renouvelé, de faire une nouvelle expérience. Lui le sait, toi tu le sais aussi. Quel est ton poids ce matin? Je veux t'inviter. Et non seulement t'inviter, mais je voudrais prier pour toi. Alors que nous avons les yeux fermés, et comme ce n'est pas un jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux t'inviter, toi qui tu es, à lever ta main là où tu es, et je veux prier pour toi, pour que Jésus répande cette joie et cette paix en toi. Si tu le veux bien, tu lèves ta main, et je prierai pour toi. Je prierai pour que Jésus t'accompagne. Oui, Jésus te voit, mon frère. Jésus entend ton cœur. Jésus te voit, ma sœur. Il est ce doux berger. Il est celui qui ne manque jamais à ses promesses. Seigneur, tu as vu. Tu as vu mon frère, tu as vu ma sœur. Tu as vu ceux aussi qui n'osent pas lever leurs mains. Tu connais les cœurs de chacun. Je te prie, Seigneur, de répandre ta grâce, de répandre une double portion de ton esprit dans la vie de ces bien-aimés, pour qu'ils marchent comme toi, tu veux qu'ils marchent, qu'ils te rencontrent, toi, le seul et l'unique vrai Dieu, qu'ils soient remplis de ton esprit et de la connaissance que tu nous donnes, de cette lumière qui éclaire toute obscurité. Oui, je te prie de les bénir abondamment dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, que seul l'unique gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps que nous avons pris pour parler de toi. Que ces paroles produisent le fruit qu'elle doit produire. Ta parole porte du fruit. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié pour ce moment que nous avons passé sous ton regard. Je te rends grâce, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen.